conte de l'Alhambra, le roman espagnol. Lors de la dernière partie de mon séjour à l'Alhambra, j'effectuais de fréquentes visites à la bibliothèque des jésuites de l'université, où je me délectais toujours davantage des vieilles chroniques espagnoles que je trouvais là reliées en parchemin. Ces histoires désuètes qui évoquent les temps où les musulmans étaient implantés dans la péninsule me ravissent. Bien qu'elle soit parfois empreinte de fanatisme et d'intolérance, elle regorge de nobles actions et de sentiments généreux et ont une saveur relevée, épicée, orientale, que l'on ne retrouve pas dans les autres récits de cette époque, européens pour la plupart. En fait, l'Espagne, même de nos jours, est un pays à part, coupé du reste de l'Europe par l'histoire, les coutumes, les manières et les façons de penser. C'est un pays romantique, mais ces romans n'ont pas la sentimentalité des romans européens modernes. Ils évoquent surtout les brillantes régions de l'Est, ainsi que la noble école de la chevalerie sarrasine. L'invasion arabe et la conquête apportèrent une civilisation plus développée et une philosophie plus noble à l'Espagne goth. Les Arabes étaient un peuple à l'esprit vif, sagace, fier et poétique, imprégné de science et de littérature orientale. Tous les lieux où ils établirent leur puissance devinrent des points de ralliement des érudits et des savants, et ils rendirent les peuples qu'ils avaient conquis plus doux et plus raffinés. Par degrés, l'occupation sembla leur donner un droit héréditaire à la domination de la terre. Ils cessèrent d'être considérés comme des envahisseurs et furent acceptés comme des voisins rivaux. La péninsule, éclatée en divers états, à la fois chrétienne et musulmane, devint au fil des siècles un grand terrain de campagne, dans lequel l'art de la guerre semblait être la principale activité de l'homme et fut élevé au plus haut degré de la chevalerie romantique. La raison première des hostilités, la différence de foi, perdit progressivement de sa force. Des états voisins, de croyances opposées, se liaient occasionnellement en alliances, offensives et défensives. Ainsi, la croix et le croissant pouvaient être vus côte à côte, combattant ensemble contre un ennemi commun. En temps de paix, également, les jeunes nobles des deux confessions séjournaient dans les mêmes villes, chrétiennes ou musulmanes, pour y apprendre la science militaire. Même lors des trêves temporaires de guerres sanguinaires, les combattants qui avaient lutté les uns contre les autres pendant les mortels assauts du champ de bataille laissaient de côté leur animosité, se rencontraient dans des tournois, des joutes et autres festivités militaires, et échangeaient les courtoisies d'usage entre esprits doux et généreux. Ainsi, les races opposées se mélangeaient fréquemment entre elles à l'occasion de relations pacifiques. Ou, si quelque rivalité s'établissait, elle se réglait par ces actes nobles et de haute courtoisie qui caractérisaient les chevaliers accomplis. Les guerriers, de confessions opposées, rivalisaient entre eux en magnanimité autant qu'en courage. En effet, les vertus chevaleresques étaient raffinées jusqu'à un niveau souvent exigeant et contraignant, mais parfois ineffablement noble et émouvant. Les annales de ces temps-là regorgent d'exemples de courtoisie impétueuse, de générosité romantique, de désintéressement élevé et d'honneur pointilleux dont la lecture réconforte l'âme. Ses annales ont fourni les thèmes de pièces de théâtre et de poèmes nationaux où ont été chantés dans ses ballades pénétrantes qui sont le souffle vital du peuple, et ont ainsi continué à exercer une influence sur le caractère national que des siècles de vicissitudes et de déclins n'ont pas réussi à amoindrir. De cette façon, avec tous leurs défauts, et ils en ont beaucoup, les Espagnols, même de nos jours, sont, sur de nombreux aspects, le peuple le plus noble et le plus fier de l'Europe. Il est vrai que le roman de sentiments issu des sources que je viens d'évoquer a, comme tous les autres romans, sa part d'affectation et d'extrême. Il fait que les Espagnols y sont parfois pompeux et grandiloquents, enclins au punto d'honneur ou point d'honneur, au-delà de la mesure et d'une moralité raisonnable, disposés, au cœur de la pauvreté, à affecter des airs de grande caballero, et à regarder de haut, avec un dédain souverain, les arts mécaniques et toutes les activités rémunérées de la vie plébéienne. Mais cette seule inflation de l'esprit, en emplissant le cerveau de vapeur, le place au-dessus de 1000 avarices. Et bien qu'elle le maintienne souvent dans l'indigence, elle le protège toujours de la vulgarité. De nos jours, alors que la littérature populaire se répand dans les basses strates de la vie et se prélasse dans les vices et les folies de l'humanité, et alors que la quête universelle du gain piétine la précoce découverte du sentiment poétique et épuise la verdure de l'âme, je me demande s'il ne serait pas bénéfique pour le lecteur de retourner de temps en temps à ces récits d'époque plus nobles et de façons de penser plus élevées, et de s'imprégner jusqu'aux lèvres des vieux romans espagnols. Sur ces idées préliminaires, le fruit d'une matinée de lecture et de rumination dans la vieille bibliothèque des jésuites de l'université, je vais proposer un exemple de légende conçu à partir d'une de ces vénérables chroniques que je viens d'évoquer.